Une chose est certaine, les forces opposées au nazisme demeurent et de loin les plus fortes, en dépit de tout ce qui s'est passé. Peut-être aurons-nous à affronter une période de souffrance résultant du massacre des combattants par l'aviation, mais cette épreuve, si elle est subie avec fermeté, ne fera que sceller la camaraderie de nombreuses nations unies pour se sauver elles-mêmes et sauver l'humanité de l'emprise d'un tyran. Extrait du journal de Sir Winston Churchill, le 24 mars 1939.
Les fenêtres de l'histoire, avec Philippe Faureau.
Aujourd'hui, dans la continuité de notre histoire d'Angleterre, je vous propose de personnaliser quelque peu notre chronique des fenêtres de l'histoire en évoquant la figure de Sir Winston Churchill. Parce que, au travers de la vie de Churchill, nous allons traverser les 50 premières années du XXe siècle avec des moments de tragédie et avec aussi les aléas politiques d'un homme qui, s'il n'était pas devenu Premier ministre britannique le 10 mai 1940, serait connu de quelques spécialistes, mais ne serait pas passé à la postérité. Il est évident que la Seconde Guerre mondiale a fait de Churchill un homme de la très grande histoire. Winston Churchill est né le 30 novembre 1874. Il est le fils de Lord Randolph Churchill, qui mourut à 45 ans en 1895, descendant des ducs de Marlborough, et de Jamie Jerome, une mère aimante, qui sera sans doute un havre de solidarité, d'affection auprès du jeune Churchill, même s'il regretta souvent qu'elle ne vint guère le voir lorsqu'il était en pensionnat. Lord Randolph n'a jamais cru en son fils. Il pensait qu'il n'avait pas les qualités nécessaires et il ne l'a guère encouragé et poussé à faire une très grande carrière. Le jeune Churchill a pourtant une ambition. C'est celle de rentrer à l'école militaire de Sandhurst, ce qu'il fit en 1893. De là, il parcourut le vaste monde. Il alla à Cuba, aux Indes, au Soudan et il fit également la guerre des bourgs. Il en rapporta un premier livre qui lui valait une certaine reconnaissance, « Mes jeunes années », où il raconte ses premières expériences militaires, où, il faut le remarquer, lui qui a souvent flirté avec la mort à ce moment-là, a réussi à lui échapper. En 1908, il se marie avec Clémentine Osier. Ce fut la femme de sa vie et ce fut un couple aimant. Mais auparavant, le militaire qui était jusque-là Churchill, eh bien, est entré en politique. Il a été élu député conservateur en 1900, mais il ne va guère être fidèle à son parti. Désaccord profond à propos du libre-échange, il préféra passer au Parti libéral en 1906. Et là commence une vraie carrière politique. Il est ministre du Commerce en 1908 et il participe à des lois sociales, à l'élaboration de lois sociales sur le salaire minimum, sur des allocations pour le chômage et pour une espèce de première assurance sociale, le National and Success Act de 1914. En 1909, il est ministre de l'Intérieur et on sent déjà la personnalité qui veut se mettre en avant. Lors d'une prise d'assaut d'un immeuble où s'étaient réfugiés des gangsters, le 3 janvier 1911, il est aux premières loges et d'ailleurs il va prendre la décision, puisqu'ils ne veulent pas se rendre, eh bien, de faire brûler l'immeuble pour vaincre les malfrats qui s'étaient réfugiés. En 1911, il devient également premier lord de l'amirauté. Il va donc participer au développement et à la guerre maritime durant le premier conflit mondial. Il est un des responsables de l'échec des Dardanelles, mais il convient de dire tout de suite qu'il n'est pas le seul responsable. L'état-major, le gouvernement britannique, est aussi responsable du désastre. Après quelques mois passés sur le front français, suite à sa démission, il retrouve un poste en juillet 1917 comme ministre de l'armement, puis en 1921, comme ministre des colonies. En 1922, Il tombe malade à cause d'une crise sérieuse d'appendicite et il doit être opéré. Ce qui fait qu'aux élections qui ont lieu à ce moment-là, eh bien, il ne peut faire véritablement campagne. Et c'est d'ailleurs sa femme qui va souvent le représenter dans les meetings. Or, il perd son siège de député, ce qui lui fit dire qu'il n'avait plus à ce moment-là ni portefeuille, ni siège, ni parti, ni appendice. Il a changé effectivement de parti parce qu'il a quitté le Parti libéral, à qui il reproche trop de connivence avec les travaillistes, et il retrouve une place au sein du Parti conservateur et il est élu à nouveau député à la Chambre des communes. Pendant 5 ans, entre 1924 et 1929, il est chancelier de l'échiquier. Il dira lui-même d'ailleurs qu'il fut sans doute le plus mauvais chancelier d'échiquier de toute l'histoire britannique, c'est-à-dire responsable des finances. Il a pris effectivement une décision qui a été lourde de conséquences, le retour à l'étalon or, c'est-à-dire de baser la valeur de la livre sterling sur la valeur de l'or. Après la défaite des conservateurs en 1929, il n'est plus ministre, mais il reste député. Et il va traverser toute la décennie 1930 en simple député, mais il va être de plus en plus Cassandre, c'est-à-dire qu'il va de plus en plus annoncer les dangers que l'Europe et le monde courent depuis l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler le 30 janvier 1933. Il ne cessera de souligner la nécessité de résister au pan-germanisme nazi et aux ambitions du Führer. Au moment de la conférence de Munich, il s'oppose au vote favorable des accords et il a une phrase d'ailleurs extrêmement forte, assénée à la Chambre des communes lors du débat sur Munich, puisque s'adressant au Premier ministre, Neville Chamberlain, il lui dit « Monsieur le Premier ministre, vous aviez le choix entre le déshonneur et la guerre, vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. » Effectivement, un an plus tard, la guerre éclate à propos de la crise polonaise. Le 3 septembre, la Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. Il revient au premier plan, il est Lord de l'Amirauté. Il va même mener une politique extrêmement offensive pendant la drôle de guerre. On se bat véritablement sur les mers et les océans. Et le 10 mai 1940, suite à une campagne de Norvège qui est un échec pour les Alliés, le roi George VI va nommer comme Premier ministre Sir Winston Churchill. Je vous propose de l'écouter lors d'un discours prononcé devant les communes le 13 mai 1940, où il va promettre aux représentants de la nation britannique et à celle-ci du sang, de la peine, de la sueur et des larmes.
I would say to the House, as I said to those who have joined the government, I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat. We have before us an ordeal of the most grievous kind. We have before us many, many long months of struggle and of suffering. You ask, what is our policy? I will say, it is to wage war by sea, land, and air, with all our might, and with all the strength that God can give us, to wage war against a monstrous tyranny never surpassed in the dark and lamentable catalogue of human crime.
Émouvant d'entendre cette voix qui s'élevait à la Chambre des communes dans un silence lourd d'angoisse, parce qu'effectivement, depuis 3 jours, depuis le 10 mai, depuis d'ailleurs le jour de sa nomination au 10 Downing Street, eh bien, l'armée allemande était passée à l'offensive aux Pays-Bas, en Belgique, et le front français allait être percé le jour de ce discours. Il est évident que la guerre n'aura pas le temps, si j'ose dire, d'avoir une place dans ma chronique, car je n'ai pas les minutes nécessaires pour analyser toute la politique de Churchill pendant la guerre. Mais retenons un élément. Il va être sans doute l'incarnation de la Grande-Bretagne en guerre. Oh, ne croyons pas que l'affaire soit facile. En effet, au moment où la France va signer l'armistice au travers du gouvernement du maréchal Pétain, il y a à Londres des éléments du gouvernement, de l'establishment britannique, qui seraient tentés, avant une éventuelle invasion, de traiter avec le dirigeant nazi. Churchill a réussi à les écarter. Il est indéniable aussi que les circonstances l'ont aidé, parce que la réussite du rembarquement de Dunkerque a permis à la Grande-Bretagne de sauver l'essentiel. Par la suite, il va diriger son pays alors qu'il est seul à lutter contre l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste jusqu'en juin 1941, c'est-à-dire jusqu'au moment de l'invasion de l'Union soviétique. Ensuite, il accueillera avec joie l'entrée en guerre des États-Unis à la suite de l'attaque japonaise de Pearl Harbor. Il aura tout de même conscience, à partir clairement de 1943, que parmi les trois grands qui se réunissaient régulièrement, son pays et l'Empire britannique étaient le plus petit des trois. Comme les grands peuples sont ingrats, eh bien, il perd les élections de la fin juillet 1945. Il va pendant 6 ans être le chef de l'opposition et il va redevenir Premier ministre le 26 octobre 1951. Le 6 avril 1955, à presque 80 ans dépassés, eh bien, il démissionnera et il recevra, pour un dîner officiel, Sa Majesté Élisabeth II qui viendra lui rendre hommage. Il restera au Parlement jusqu'aux élections de 1964, où d'ailleurs il ne paraissait plus tellement à la Chambre des communes, tellement il était fatigué et qu'il avait des problèmes neurologiques. Il mourut le 24 janvier 1965. Le général de Gaulle et tous les alliés vivants encore de la Seconde Guerre mondiale étaient présents à Londres pour cet ultime hommage. Il avait bien mérité, au nom de la liberté du monde, d'être reconnu par ses pairs comme parmi les plus grands.